Bonjour tout le monde, bienvenue à Berceuse dans le noir de Crémy Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
En juillet 2020, Léa et son mari, que nous allons appeler Jules, ont décidé de se lancer dans un voyage de camping à travers le Colorado. Ils ont passé leurs deux premières nuits du voyage dans la même ville, mais la troisième nuit, ils voulaient quelque chose d'un peu plus isolé. Ils se sont donc aventurés hors de la ville vers une forêt nationale de la région et ont installé leur campement près d'un canyon profond et entouré de pins géants. La première nuit, selon Léa, a été incroyable. Ils ont garé la voiture à côté d'un petit terrain et ont installé leur petit camp qui allait être leur chez-soi pour les prochains jours. Il y avait de nombreuses autres personnes qui peuplaient le terrain, qui jouaient à des jeux et s'asseyaient autour de feux de camp qu'ils avaient allumés avec leur famille. Le temps était magnifique. L'altitude faisait qu'il ne faisait pas trop chaud malgré le mois de juillet et les nuits étaient claires et étoilées. Le lendemain, Léa et Jules ont exploré le paysage et la ville environnante. Ils n'avaient aucun plan précis de prévu pour le voyage, ils voulaient juste s'évader. Alors, ils ont surtout fait le tour des petites boutiques du coin et se sont arrêtés dans un restaurant local. Mais cette nuit-là, à leur retour au terrain de camping, ce dernier était méconnaissable de la nuit précédente. Le soleil commençait à se coucher quand ils sont arrivés sur le terrain et, dans la lumière déclinante, Léa a ressenti un calme, un silence qui n'était pas là auparavant. Les lapins et les cerfs qui passaient à la limite des arbres avaient disparu, tout comme le faible bourdonnement de la musique et les conversations des familles qui les entouraient. C'était un calme étrange, comme si la nature retenait son souffle. Selon Léa, il y a une différence entre une bonne nuit dans les bois et une nuit trop tranquille. Les nuits trop calmes signifient souvent que quelque chose ne va pas, et cette nuit-là, c'était bien trop calme. Et puis, les insectes sont arrivés. Les fourmis et les mouches ont envahi le terrain, forçant Léa et Jules à emballer leurs affaires et à déplacer leur voiture vers un autre endroit. Ils avaient commencé à préparer le souper quand soudain, un cri perça la nuit, celui d'un enfant en détresse. Plus tard, ils ont appris que l'enfant avait marché sur un cactus en fuyant ses parents en s'écriant « On doit y aller, on doit partir maintenant ». Plus tard dans la nuit, Léa et Jules étaient assis près du feu, en train de souper, perturbés par ce brusque changement d'atmosphère. Bien qu'ils savaient qu'ils devraient éteindre le feu après le repas, une part d'eux souhaitait prolonger ce moment réconfortant et rassurant que procurait la lueur des flammes. Ils ont donc laissé les flammes crépiter encore environ une heure, observant en silence la lisière des arbres et chassant les mouches qui tournaient autour d'eux. Finalement, vers 23 heures, épuisés, ils ont enfin réussi à s'endormir. Mais ensuite, vers 2h30 du matin, Jules fut soudainement pris de sueur froide. « Nous devons y aller », a-t-il dit en se précipitant vers la couverture qui recouvrait le pare-brise. À peine assis au volant, qu'il avait démarré la voiture et avait commencé à conduire. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Léa, inquiète. Jules était complètement paniqué. « Je ne sais pas. Je pense avoir entendu quelqu'un crier. Il y a quelque chose de mauvais là-bas. » Léa a donc décidé de ne pas poser plus de questions. Elle fit confiance à Jules et à son jugement. Et ils sont arrivés finalement au parking d'une épicerie où ils se sont garés pour le reste de la nuit. Ensemble, ils ont pris la décision d'aller chercher le reste de leurs affaires le lendemain matin et de partir. Cette nuit-là a semblé durer une éternité. Qu'est-ce qui aurait pu effrayer Jules à ce point pour qu'ils aient dû partir si soudainement? Entendre des bruits étranges en camping était courant et n'avait généralement pas de quoi s'inquiéter. Léa n'avait même pas entendu ce qui s'était passé. Était juste un cauchemar? Le lendemain matin, profitant du soleil levant, ils sont retournés à leur campement, mais Jules était toujours agité et semblait toujours perturbé. Léa lui a donc demandé s'il pouvait lui en dire un peu plus sur ce qu'il avait cru entendre la veille. Peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil, il réaliserait que c'était probablement juste un lynx attaquant sa proie et tous deux en riraient. Mais au contraire, Jules devint pâle. « J'ai cru entendre un cri. Puis j'ai eu l'impression que nous étions observés. Mes cheveux se sont dressés et quelque chose en moi hurlait que nous devions partir, et vite. Je voulais juste nous sortir de là. Je pensais qu'on allait mourir. À leur retour sur le terrain, évidemment secouée par les paroles de Jules, Léa a donc appelé les Rangers pour se sentir un peu plus en sécurité, mais aussi afin de leur demander de vérifier la zone où ils campaient. Après avoir réalisé une recherche préliminaire du secteur, le garde forestier a déclaré que tout semblait bien aller. Il leur a dit « Parfois, les nouveaux campeurs sont effrayés par les bruits dans les bois. Vous vous y habituerez tous les deux. » Est-ce que le garde se moquait d'eux? Léa et Jules étaient des campeurs chevronnés. Ils en avaient vu de toutes les sortes, mais jamais rien de tel. Après avoir été ignorés par le ranger, ils ne voulaient qu'une chose, partir. Quelque temps plus tard, Léa reçoit un appel. C'était le même garde forestier. D'une voix tremblante qui trahissait son état d'esprit ébranlé, il lui dit « Nous avons trouvé quelque chose. La police va vous appeler dans quelques instants. Ils ont des questions. » Effectivement, la police a appelé dans l'heure. Un corps avait été retrouvé à une cinquantaine de mètres de leur campement, seul, sous une tente. L'homme avait été poignardé à mort. Mais les policiers ont aussi remarqué des empreintes de pneus. Ils ont découvert des traces venant des bois jusqu'à la tente où se trouvait le corps, puis d'autres traces, allant dans la direction où Léa et Jules logeaient. La police avait des questions sur cette nuit-là. Avait-il été cambriolé? Avait-il vu quelque chose, entendu quelque chose? Dans leur élan de panique cette nuit-là, Léa et Jules avaient laissé toutes leurs affaires, y compris leur portefeuille, à l'extérieur de la voiture lorsqu'ils étaient partis, et tout était là à leur retour. La personne qui a attaqué l'homme dans la tente ne devait avoir qu'une seule chose en tête. À ce jour, ils n'ont pas arrêté l'auteur de cet acte et n'ont jamais identifié le corps. Léa et Jules ont-ils échappé de justesse à un destin désastreux? Feriez-vous à nouveau du camping si c'était vous? Je n'ai jamais été du genre à croire aux histoires de fantômes que mon oncle Raph me racontait. Elle était toujours longue et interminable, jamais directe et, franchement, pas très convaincante. Ayant grandi sur le sentier des Appalaches, il m'avertissait souvent de me méfier de ce qui se cachait dans l'ombre après la tombée de la nuit. Mais, étant le genre de personne qui doit voir pour croire, je n'y ai jamais vraiment prêté attention, jusqu'à la nuit dernière. Alors que j'écris ces lignes, en sécurité et au chaud, dans le confort de ma maison, j'espère que raconter les événements qui se sont déroulés va me procurer un peu de paix. Mais je sais que ce que j'ai vécu restera gravé en moi pour toujours. Ce fut une nuit qui m'a donné des frissons dans le dos et m'a fait devenir un fervent croyant de tout ce que mon oncle Raph avait pu dire sur la forêt. J'avais rendu visite à mon oncle pour récupérer l'acte de propriété de sa maison. Alors que je rangeais les papiers et me préparais à partir, mon oncle me lançait un regard sérieux. « Es-tu sûr de vouloir sortir aussi tard? » Tu sais comment ces bois deviennent après la tombée de la nuit. Ils peuvent être vraiment effrayants. J'ai essayé de minimiser ces préoccupations avec un rire léger. Je dois rentrer chez moi, oncle Raph. Ma mère va commencer à s'inquiéter si je ne reviens pas bientôt. De toute façon, ce n'est pas comme si quelque chose allait se passer. Mon oncle, lui, ne semblait pas convaincu. S'il te plaît, laisse-moi te donner un conseil. J'ai hoché la tête et il a continué. Ne regarde pas dans les arbres. Si tu vois quelque chose, non, tu ne l'as pas vu. Si tu entends quelque chose, ne te retourne pas. Continue de marcher et ne l'appelle pas. Et si tu entends des pas, par pitié, ne cours pas. Tu ne ferais qu'aggraver les choses. À ce moment-là, je ne croyais pas un seul mot de ce qu'il disait. J'aurais dû. En tentant de paraître reconnaissant, j'ai dit « Merci, oncle Ralph. Je vais en tenir compte. » Oncle Ralph ne semblait pas saisir que je ne voulais pas rester plus longtemps que nécessaire. « Pourquoi ne restes-tu pas pour la nuit? Je pourrais te conduire demain, » m'a-t-il proposé avec un regard rempli de désespoir. Mais je secouais la tête négativement. Il a continué. « C'est juste que je suis inquiet. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. » En riant légèrement, espérant détendre l'atmosphère que mon oncle avait créée en se lançant dans l'une de ces histoires fantastiques dont les gens du coin raffolent, je lui ai dit « Tout ira bien. En plus, il reste encore un peu de lumière du jour. Mais si tu continues à parler, il n'y en aura plus. » C'était courant parmi les anciens qui vivaient sur le sentier d'être fascinés par ce genre d'histoire. certains disant qu'ils avaient vu quelque chose eux-mêmes ou qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait été pris par les « créatures » entre guillemets, qui vivent dans les bois. Alors que je descendais les marches de sa maison, mon oncle Ralph me dit « Sois prudent, souviens-toi que tu n'es jamais vraiment seul là-bas, que tu le veuilles ou non. » Ces paroles m'ont fait frissonner, mais je les ai écartées rapidement, espérant simplement pouvoir rentrer chez moi et m'allonger dans le confort de mon lit. En lui faisant un signe de la main, je lui ai dit « Au revoir, oncle Ralph. » J'ai commencé mon périple dans les bois sans me douter de ce qui allait arriver. Je me disais « Tout va bien se passer. » Après un demi-kilomètre de marche, j'ai commencé à ressentir une sensation étrange dans la nuque, l'impression d'être observé. Je l'ai rapidement chassé en me disant que c'était sûrement un animal qui me regardait, peut-être un cerf ou un lapin. Alors, j'ai continué de marcher. En marchant, j'ai remarqué que ma chaussure se desserrait. Un kilomètre après avoir commencé mon retour. Je me suis donc baissée pour la lasser, plus rapidement que je n'aurais dû, parce que je voulais sortir de la forêt. Il faisait de plus en plus sombre et ma mère allait commencer à s'inquiéter. Mais à cause de mon manque de coordination, j'ai trébuché et j'ai dû recommencer. « Merde !» j'ai murmuré doucement. Mes mots ont dû déclencher quelque chose, parce que dès que je les ai prononcés, un sifflement a commencé. Ça ne pouvait pas être le vent, parce que c'était un air sifflé, un air que je ne pouvais pas décrire. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était les corbeaux, à cause de leur capacité à imiter. Mais j'ai tout de même décidé de regarder autour de moi, oubliant complètement ce que mon oncle Ralph avait dit. J'ai instantanément regretté mes actions, parce que dans les arbres et les buissons denses sur le côté du sentier, se tenait une silhouette élancée, avec des longs membres, m'observant avec des yeux qui semblaient briller, et un large sourire montrant des dents presque humaines. J'ai rapidement terminé de lasser mes chaussures et je me suis levée. J'ai balayé ce que j'avais vu et l'ai attribué aux paroles de mon oncle Ralph qui m'avait fait halluciner. Alors, j'ai continué de marcher. Pourtant, le sifflement persistait et je me persuadais que c'était les corbeaux. Ça faisait maintenant 2 kilomètres et il ne restait qu'un demi-kilomètre avant que je ne sois dans le confort de mon lit, épuisé. Cette sensation dans ma nuque était toujours là. Elle semblait même s'être intensifiée, mais je me concentrais que sur le fait de rentrer chez moi. À ce moment précis, un cri déchirant a résonné dans la forêt, perçant le silence de la nuit. Ce n'était pas n'importe quel cri, mais un son provenant d'une femme en proie à une douleur et une agonie insupportables. Figée par la terreur, je ne savais pas quoi faire. Les paroles de mon oncle Raph résonnaient dans ma tête, me disant de l'ignorer, mais le cri semblait trop réel pour être ignoré. Sentant que je devais faire quelque chose, que je devais enquêter, j'ai crié, mais les cris et le sifflement se sont arrêtés brusquement. Un frisson a parcouru mon dos, et je repris ma marche, accélérant le pas jusqu'à presque courir. Cependant, l'avertissement de mon oncle Ralph m'est revenu en tête, et j'ai ralenti à un rythme de marche rapide, espérant ne pas provoquer ce qui pourrait rôder dans les bois. En essayant de me calmer, je me suis dit, il ne reste plus qu'un demi-kilomètre. Tu es probablement en train de t'imaginer des choses et de te faire peur, toute seule. J'ai gardé la tête haute, maintenu un rythme de marche soutenu et j'ai continué mon chemin vers la maison. Bon sang, pensais-je, parce que maintenant, il y avait des bruits de pas qui semblaient être ceux de quelqu'un qui courait, venant de derrière moi, et c'était alarmant de voir à quelle vitesse il se rapprochait. J'ai abandonné tout ce que mon oncle Ralph m'avait dit de faire et j'ai couru. J'ai couru aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, sans jamais regarder en arrière. Quoi que ce soit derrière moi, ça me rattrapait. Je ne me suis jamais retournée, je courais sans penser à autre chose que courir. J'ai senti un souffle chaud sur ma nuque. C'était fétide, presque comme s'il allait brûler ma peau, et quelque chose de pointu s'est enfoncé dans ma nuque, provoquant une douleur cuisante. J'ai crié de douleur, me débattant et essayant de me défendre. Après ça, je me suis réveillée, haletante et en sueur. Cette hallucination n'était qu'un terrible cauchemar. Je suis en train d'écrire ceci, encore tremblante. Je n'ai aucune idée de comment je suis rentrée chez moi. J'étais encore à un demi-kilomètre de la maison. Je me souviens que la dernière chose que j'ai écrite dans le journal était que ce n'était qu'un cauchemar, mais j'avais tort. Quand je me suis réveillée après ça, je suis allée dans la salle de bain et j'ai eu l'envie soudaine de vérifier l'arrière de ma nuque, alors je l'ai fait. Et là, elles étaient des marques de griffes. Le parc national de Jasper, en Alberta, est célèbre pour ses paysages majestueux et ses vastes étendues sauvages. Reconnu comme parc national le 14 septembre 1930, c'était le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes, offrant une grande diversité de paysages et d'écosystèmes. En 1952, un garde forestier chevronné du parc que l'on va appeler William était un homme habitué aux solitudes des montagnes. Sa passion pour la nature était inébranlable et rien ne semblait pouvoir troubler cette sérénité, jusqu'à ce jour fatidique. Un matin d'automne, alors que le froid commençait à mordre, William s'est dirigé vers une partie isolée du parc, une région peu explorée par les visiteurs. En suivant un sentier presque oublié, il tombe sur une cabane en bois dissimulée parmi les arbres. Cette cabane, vieille et décrépite, est couverte de mousse et de toiles d'araignée. Elle est connue des anciens du village comme étant la demeure d'un ermite, Thomas, qui s'y est installé dans les années 1900 pour fuir la civilisation. Intrigué, William pousse la porte, qui grince avec une inquiétante résonance. À l'intérieur, l'air est lourd, stagnant, chargé de l'odeur de moisissure et de décomposition. Sur une vieille table en bois reposent des journaux jaunis par le temps. En les feuilletant, William découvre qu'ils appartiennent à Thomas, l'homme qui avait choisi la solitude des montagnes pour mener une vie retirée. Les premières pages relatent une existence simple, chasse, pêche et les réparations nécessaires pour maintenir la cabane en état. Mais une tension croissante transparaît dans les écrits. Au fil des semaines, les entrées du journal ont pris une tournure plus sombre. Thomas décrit des bruits étranges dans la nuit, des chuchotements à peine audibles et une sensation persistante d'être observé. William a noté un passage particulièrement troublant. Thomas a écrit « La nuit dernière, j'ai entendu des pas lourds autour de la cabane. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien. Mais les marques sur le sol, elles n'étaient pas normales. » Plus le temps avance, plus Thomas devient de plus en plus angoissé et ses écritures deviennent incohérentes. Dans sa dernière entrée, datée du 7 novembre 1929, il écrit « Elle est là, juste derrière la fenêtre. Elle m'appelle. Peut-être que c'est la seule façon de partir. » Les mots sont empreints d'une terreur palpable. William ressent un frisson glacé lui traverser le dos en lisant ces lignes. À mesure qu'il quitte la cabane, il perçoit une différence dans l'atmosphère. Les arbres semblent plus sombres, les ombres plus profondes, comme si une présence invisible s'était intensifiée autour de lui. En se retournant, William constate avec stupéfaction que la cabane semble changer d'apparence, ses contours devenant plus fous et indéfinis. Hallucinait-il? Les mois suivants, divers randonneurs ont rapporté avoir aperçu cette cabane mystérieuse. Certains ont dit qu'elle apparaissait brièvement avant de disparaître comme un mirage. D'autres ont affirmé avoir ressenti une présence oppressante à proximité. Un jour, une jeune femme en exploration dans la région a affirmé avoir vu une silhouette pâle à la fenêtre de la cabane. Cette apparition, qu'elle a décrit comme un homme aux yeux noirs dans l'abîme, la jeune femme est retrouvée errante et capable de se souvenir des événements, murmurant seulement « Ne répondez pas, ne la laissez pas entrer, ne répondez pas, ne la laissez pas entrer. » Aujourd'hui, la cabane reste un mystère non résolu dans le parc national de Jasper. Elle semble n'apparaître qu'à ceux qui cherchent des réponses dans la solitude des montagnes. Les visiteurs qui la découvrent ne reviennent jamais tout à fait les mêmes.
Je pense que l'histoire qui est fausse est la troisième histoire.
L'histoire numéro 3 est la fausse. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Berceuse dans le noir de Crime et Cocktail.
Cheers, guys!
Chin-chin!